Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors c'est le matin, à la fraîche, on déguste un café frappé, un thé réfrigéré, un chocolat froid, une orangeade, un jus de tomate ou un sirop d'orgeat, et on se regarde, on se découvre, on se parle, secouez longuement, et vous obtenez donc le cocktail d'Estivalitude. Oui, Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Aïssa Maïga, actrice connue et reconnue, vous avez tourné dans pas moins de 34 films, je les ai comptés. Votre dernier opus, Mon Frère, qui sort le 31 juillet, se déroule dans le milieu carcéral des centres éducatifs fermés, et je précise que ce n'est pas du tout une comédie. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Christophe Bourseiller.
Jean-Marc Dumonté, producteur, directeur de théâtre, vous êtes un des hommes clés du théâtre français. Rien qu'à Paris, vous possédez 6 salles et vous produisez entre autres Alex Lutz, François-Xavier de Maison, Nicolas Canteloup, Caroline Vigneault et j'en passe. Bonjour Jean-Marc Dumonté.
Bonjour Christophe et bonjour Aïssa.
Bonjour Christophe.
D'un côté,
bonjour,
oui, bah, bonjour, on va se dire bonjour.
Je vais m'éveiller.
Oui, non, mais c'est bon. Alors donc, d'un côté, un entrepreneur multifacette, Jean-Marc Dumonté, de l'autre, une actrice polyphonique, passant de la comédie au drame, Aïssa Maïga, Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller sur France Inter.
Vous l'avez compris, avec Aïssa Maïga et Jean-Marc Dumonté, nous sommes a priori dans l'univers du spectacle, où théoriquement tout le monde se connaît. Donc Aïssa Maïga, j'imagine que vous avez déjà rencontré Jean-Marc Dumonté.
On ne s'est jamais rencontré en vrai. Par contre, c'est un nom que j'ai évidemment vu très très souvent sur les affiches de spectacle.
Et donc vous n'avez jamais travaillé avec lui?
Pas à ma connaissance.
Pas encore.
Ça viendra, j'espère.
Exactement.
Ce matin, vous savez, le matin à France Inter, tout arrive. Et vous Jean-Marc, vous avez déjà vu les films d'Aïssa Maïga? Si
moi,
je vous dis, les poupées russes,
oui, non, mais
Bamako.
Évidemment, on a tous vu les films d'Aïssa, mais ouais. Je l'avais pas rencontré encore.
Corniche Kennedy, caché.
Corniche Kennedy, j'ai pas vu.
La piste du marsupilami.
Si vous me faites toute la liste, évidemment, je vais être collé. Évidemment, il y a un moment où je vais être défaillant. Donc, si c'est ça le but, de me piéger à 9h05, vous allez y parvenir.
Pas du tout.
Par jour de canicule.
Non, c'est parce que je voudrais que vous engagiez Aïssa Maïga, parce que elle est capable de passer de la comédie au drame. C'est-à-dire qu'on peut la retrouver aussi bien dans Sur la piste du marsupilami que dans Mon Frère. Et c'est vrai que Mon Frère, c'est un film qui est tragique, puisque dans ce film, Aïssa, vous êtes psychologue dans un centre fermé pour délinquants mineurs. Alors, en deux mots, de quoi parle le film Mon Frère de Julien Abraham?
C'est le parcours d'un jeune homme qui vit une vie, somme toute, assez normale, qui va vivre un drame familial. Il va être accusé de meurtre et donc enfermé dans un centre fermé.
Du meurtre de son père.
Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on peut révéler ou pas.
Bon,
je ne voulais pas spoiler,
rien,
mais effectivement, ça arrive dès le début du film.
Oui, c'est ça.
C'est vrai
qu'on
peut le dire. Et donc, c'est son parcours de combattant et de résilience à la fois.
Alors, on écoute la bande-annonce du film Mon Frère.
Moi, je suis pas un flic, je suis pas un bâton. Là où on va, c'est un centre éducatif fermé. Vous êtes 12 à attendre votre jugement. Et ça dure 6 mois.
Vas-y, garde, tu comptes ta chaise, garde.
Alors, t'es là pourquoi?
J'imagine que les acteurs ont beaucoup improvisé, enfin je pense, Aïssa.
Alors ce film, c'est aussi évidemment une manière de découvrir de jeunes acteurs qu'on a peu ou parfois même jamais vus au cinéma. Moi j'ai été bluffée par pas seulement leur énergie et leur proposition, mais leur talent, tout simplement. Et j'ai oublié votre question.
Et ma question, c'était, donc j'imagine qu'ils ont beaucoup improvisé, et je dois dire que...
Oui et non, c'est-à-dire que le scénario était quand même très écrit, et il y a eu pas mal de répétitions pour ces jeunes comédiens.
Il y avait écrit « What Teddy, c'est un drôle de nom pour un Renoir », c'était écrit noir sur blanc.
Je crois, alors précisément cette ligne, je ne peux pas m'engager, mais il y a eu tout un travail quand même de répétition qui a fait les dialogues ont pu être affinés au fur et à mesure de ce travail.
Jean-Marc, que ça ressemble à un reportage, vous voyez, on est dans une sorte de cinéma vérité, c'est qui est, je dois dire, très très impressionnant, et c'est un film quand même très angoissant, c'est un thriller, hein, c'est
particulier. Il y a un spectacle en ce moment à Avignon qui se passe un petit peu, non pas dans un centre de rétention comme ça, mais qui s'appelle un spectacle de Christine City et Martinelli. Ouais, ouais, ouais. Ils ne savent pas qu'ils pourraient le faire, qu'il a aussi mixé des acteurs qui étaient des non-professionnels, et qui est très très beau spectacle, et qui est un coup de cœur d'Avignon.
Et c'est un travail très difficile pour un réalisateur, Julien Abraham, mais c'est vrai qu'il a réussi à rendre ces non-professionnels tout à fait justes. On a vraiment l'impression, on ne se dit pas ils ânonnent, ils bégaient, etc. Alors dans le film, Aïssa, vous jouez un rôle un petit peu particulier, parce que vous êtes psychologue, sauf que... vous pratiquez une forme de psychologie dont j'ignorais l'existence, autant pour moi, qui s'appelle la psychobox. Alors je voudrais qu'on écoute un petit extrait d'un de vos cours de psychobox.
Donc, il s'agit d'un combat de boxe anglaise, mais on ne porte pas les coups. L'idée, c'est pas de se faire mal, ok? On fait de la touche, et c'est pas un exutoire. Igor va rester en observateur. Tu vas venir taper dans mon gant pour définir l'intensité des coups, d'accord? Vas-y, tape. Moins fort. Encore plus atténué. Voilà, très bien. Donc, à tout moment, tu peux décider d'arrêter le combat. Le round dure 1 minute 30. Donc, on va marcher en rond pour prendre connaissance avec l'air de combat. Et quand t'es prêt, quand tu sens que t'es prêt, tu viens taper dans mes gants et on commence.
Vous avez l'air d'une grande professionnelle de la psychoboxe, Aïssa. C'est quoi exactement la psychoboxe? Vous pouvez nous expliquer le concept? Ça existe d'abord?
Ça existe, tout à fait. En fait, c'est une approche qui consiste à ne pas focaliser uniquement sur la parole, mais c'est une manière de donner l'opportunité à une personne qui serait bloquée dans des secrets,
qui serait psychiquement bloqué,
exactement,
de se débloquer,
et ce n'est pas vraiment le fait de taper, c'est plutôt le fait de contrôler à la fois le mouvement, l'impact, la force, qui va permettre à la personne qui est traitée de se délivrer par le biais de la parole dans un second temps.
Alors il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Mon frère est un film dur, hein, vous l'avez compris, c'est un film assez hard, sans concession, avec un casting largement composé d'acteurs noirs. On va en parler tout à l'heure à Aïssa, mais c'est vrai que c'est pas si courant dans le cinéma français.
Alors je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
Ah non, vous voyez pas, vous n'avez pas remarqué.
Alors c'est vrai que le rôle principal, c'est MHD, qui est aussi rappeur.
Voilà, qui vient d'arriver des ennuis.
Tout à fait. Et
vous êtes embêté, savoir ça? Non, parce qu'il est aujourd'hui en prison pour homicide volontaire, c'est ça?
Alors pour la qualification exactement, je ne la connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que la justice va faire
son travail.
Voilà, va faire son travail, et que c'est... Je ne peux parler que de ce qui s'est passé sur ce tournage et dire que c'est un jeune homme qui est évidemment très doué.
Un bon comédien, c'est ça.
Un très bon comédien et très à l'écoute.
C'est un film qui dénonce deux choses, qui dénonce à la fois peut-être le système judiciaire et l'encadrement des mineurs délinquants, et aussi les violences familiales.
C'est un film qui parle de ce que c'est que la jeunesse qui est exposée à des violences, à la fois, comme vous le disiez, dans le monde familial, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que je n'ai pas vu de film français sur le milieu carcéral pour les mineurs. Et le scénario était très documenté, très bien écrit. Et tout le processus de ce jeune qui part d'un milieu assez protégé de la classe moyenne en France et qui se retrouve avec des jeunes qui sont, eux, dans des parcours de vie extrêmement difficiles, extrêmement violents. C'est un portrait que je n'avais jamais vu. Et qui est écrit, encore une fois, d'une façon à la fois très documentée, très nerveuse, très réaliste. Et ce que j'ai aimé également, c'est la façon dont est décrit tout ce qui est mis en place pour ces jeunes, pour essayer de les mener vers autre chose que le milieu carcéral, notamment la psychobox.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. c'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry, elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spardi si samedi. Appelle tes amis si samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
J'suis brisé comme porcelaine.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos confrères. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. J'donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Train que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Ton cul dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un clip.
J'me sens lire comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée air pur. Les clés sont perdues. Où est la voiture? Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Alors je me suis dit à Issa Maïga que pour illustrer votre film Mon Frère, il valait mieux quand même mettre du rap, même s'il est 9h21 du matin. C'était donc Oxo Puccino, un rap assez doux, hein, Oxmo Puccino. Alors attendez, ils sont plusieurs parce qu'il est accompagné de Caballero et Jean Jass, et le titre Social Club.
Estivalitude sur France Inter.
Alors Jean-Marc Dumonté, quand j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un homme clé du théâtre en France, j'aurais dû ajouter un homme clé du théâtre privé, car de même qu'il existe une Corée du Sud et une Corée du Nord, il existe en France un théâtre public et un théâtre privé qui, malheureusement peut-être, rarement communique. Vous le déplorez?
Alors, est-ce que je peux vous dire qu'on est en plein cliché?
Oui, mais enfin, le cliché est la vie dure.
Non, pas du tout. Il y a la chance d'avoir deux formes de théâtre. Maintenant, on peut se mélanger. Il nous arrive de nous mélanger. Et comme je m'occupe des Molières, c'est l'occasion déjà, les Molières, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de les ressusciter, que les deux familles se rencontrent. Parce que c'est pas qu'il y a des cloisons, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et donc, quand ils se connaissent pas, on entretient les clichés et on entretient les fantasmes. Et ça, ça m'intéresse pas. Et j'ai par exemple lancé un festival qui s'appelle Parole citoyenne, où je fais venir des théâtres du public. J'ai accueilli la Comédie française dans un de mes théâtres, au Théâtre Antoine, avec un très beau spectacle, Les Enfants du silence. Il y a un théâtre, la Porte Saint-Martin, qui accueille des spectacles du théâtre public. Donc il y a souvent. Des mariages ou des compagnonnages, mais on reste sur des clichés comme quoi ce serait la guerre. Non, on a deux modèles, ça favorise une grande création, et incontestablement, mais ça c'est la vie, les gens ne se mélangent pas trop, ils n'ont pas cette curiosité. Mais c'est pas pour autant la guerre, c'est pas pour autant des barrières infranchissables. C'est à chacun d'aller regarder ce qui se passe, parce que vous savez, quand le rideau se lève, est-ce que le spectateur, il se dit, c'est du public ou du privé? Le spectateur, il a envie de passer un bon moment, d'être ému, d'être touché, d'être bousculé.
Ah non, mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais
donc, si vous voulez, pour le spectateur, ça veut rien dire. Et ensuite, c'est notre petite cuisine interne qui est pas passionnante.
Alors, Aïssa
Maïga,
c'est
pour ça que j'ai pas envie de l'entretenir.
D'accord. Aïssa Maïga, vous jouez parfois au théâtre. Vous faites la différence entre le théâtre public et le théâtre privé, ou vous allez indifféremment de l'un à l'autre?
Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du spectacle, c'est la qualité de l'écriture. Est-ce que le rôle me surprend? Est-ce que j'ai envie de le défendre? Est-ce que je vais pas me répéter? Est-ce que ça va me donner l'opportunité de défendre quelque chose que je n'ai pas encore exploré? J'ai eu la chance de jouer à la fois dans le théâtre public, au théâtre de la Colline, par exemple, dans une pièce de Marine Diaye, Les Grandes Personnes, et à la fois dans le théâtre privé, comme par exemple Des gens bien, au théâtre Héberto, avec Miu Miu. Et c'est vrai qu'il y a la différence qu'on pourrait noter, c'est le fait que dans le théâtre public, on n'est pas forcément obligé d'avoir des têtes d'affiche, et donc souvent des têtes d'affiche qui viennent du cinéma, pour qu'un spectacle se monte. Et c'est vrai que dans le théâtre public, on a tendance à constater une présence plus accrue de personnalités connues du petit écran ou du grand écran. Et c'est aussi pour ce que le public, un certain public, vient chercher. Quand on a joué dans cette pièce dont je parlais, Des Grandes Personnes avec Miu Miu, c'est les gens venaient de province, de toute la province,
pour vous voir, vous et
par quarts entiers, pour voir Miu Miu et me découvrir.
Mais vous savez, non, je vous posais la question parce que moi, je connais personnellement des acteurs dont je tairai le nom par charité, mais qui refusent de jouer sur une scène privée parce qu'ils trouvent ça dévalorisant. C'est une réalité, c'est quelque chose qui existe. Alors que c'est vrai que vu de la salle, on se dit, ben, pas la différence. De toute façon, il y a des acteurs bons ou mauvais sur scène, de bons spectacles, de mauvais spectacles. Mais c'est vrai que il y a cette idée là. Et puis il y a une autre idée, Jean-Marc Dubonté, selon laquelle on réduit souvent le théâtre privé, dont vous êtes un peu l'empereur, au spectacle comique au boulevard. Alors le comique est-il encore l'épicentre de ce théâtre privé ?
Ah là là, les clichés ont la vie dure.
Bah oui.
À la rentrée, j'ai un spectacle qui s'appelle Plaidoirie.
Ben on va en parler.
Mais non, mais c'est juste pour. C'est intéressant. C'est pas du tout pour faire la promotion de ce spectacle, mais c'est.
N'empêche que j'espère que vous allez la faire.
On va la faire malgré tout. Mais c'est avec Richard Berry. C'est les grandes plaidoiries du XXe siècle. Donc c'est admirablement porté par Richard. Incontestablement, il habite totalement le rôle. Mais c'est surtout des grandes pages de l'histoire de France. Un des spectacles dont je suis le plus fier, il s'appelle Chatouille, c'est sur les violences sexuelles commises sur les enfants, d'Andréa Bescon, et ça c'était dans le théâtre privé. Donc je crois que là aussi faut balayer les clichés. Aïssa a tout à fait raison, il y a des têtes d'affiches très fortes dans le théâtre privé, parce qu'on a des contraintes économiques, on joue beaucoup plus longtemps, il faut rentabiliser, alors que le théâtre public a la chance, et ce pays, a la chance d'avoir un théâtre public où on peut faire que 20 ou 30 dates pour défendre un projet et on s'arrête. Économiquement, mais il est évident que c'est déficitaire, mais le théâtre public le permet, donc c'est une chance. Nous, dans le théâtre privé, on a besoin des têtes d'affiche, incontestablement, parce qu'on va jouer sur des longues périodes. Il n'empêche, un des grands succès, et c'est pas le mien, donc je peux en parler, c'est Edmond de Michalik. Ils vont attaquer leur 4e saison, c'est tout à fait extraordinaire. Ça remplit tous les jours le Palais Royal. Et ce spectacle-là, c'est un pari fou des directeurs Francis Nani et Sébastien Azopardi, qui ont lancé le spectacle il y a 3 ans. Et de l'histoire du théâtre privé, je pense qu'il n'y a jamais eu un succès pareil. Sur Edmond Rostand. Et ça fait la 4e saison. Donc voilà,
Balayez les clichés ce matin sur France Inter. Alors on va quand même écouter la bande-annonce du spectacle Plaidoirie.
Avec grand plaisir.
J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. Certes, difficile parfois. Mais souvent,
non coupable.
C'est nous qui avons raison.
Telle est l'idéologie.
N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité.
Si les avocats sont de bons comédiens, les comédiens feraient de merveilleux avocats. C'est ça, un peu ça la morale de ce spectacle Plaidoirie avec Richard Berry, Jean-Marc
Dubonté. Non, c'est pas ça la morale. La morale, c'est que ce sont des pages d'histoire extraordinaires de l'histoire de France. Et ça montre, avec bonheur d'ailleurs, à quel point notre société a évolué. Vous avez entendu d'abord Maître Leclerc sur l'affaire Courgeot, le déni de grossesse. Ensuite, on a parlé de l'affaire Ranucci, dans les échos sonores que vous venez d'entendre. Il y a aussi la question du crime d'État avec l'affaire Papon. Il y a cette page sublimissime avec Gisèle Halimi qu'incarne sublimement Richard Berry, parce que c'est incroyable qu'un homme incarne le procès de Bobigny, donc sur l'avortement. Ça prouve sur tous ces grands sujets que la société française, en 40 ans, heureusement, elle a évolué. elle a heureusement évolué. Alors, et en bien, ça balaye là aussi le cliché comme quoi c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, quand les femmes étaient obligées d'avorter clandestinement et chaque année il y avait des milliers de décès. Et c'était pas une liberté pour les femmes, évidemment, quand il y avait encore la peine de mort dans ce pays. Donc notre pays a magnifiquement progressé, et ces pages d'histoire, incarnées mais incroyablement par Richard Berry, le prouvent. Et c'est du théâtre, mais c'est aussi la France qu'on entend au travers de ces plaidoiries.
Essayez donc de le dire pendant que vous faites l'amour, chérie. Caresse-moi le vagin. Vous cassez l'ambiance à la seconde.
J'étais inquiète au sujet des vagins, comment on les appelle et comment on ne les appelle pas.
Certaines disent le minou. Une femme m'a raconté que sa mère n'arrêtait pas de dire à sa fille « Chérie, ne mets pas de culotte sous ton pyjama, tu dois t'aérer le minou ».
Alors ça, c'est votre spectacle le plus étonnant, je trouve, Jean-Marc Dumonté, parce que vous avez réussi un coup de maître, c'est pour cette pièce, donc les monologues du vagin, pièce féministe, avec une ministre, Marlène Schiappa, avec une ancienne ministre, Myriam M. Combry, et avec une femme politique, elle aussi ancienne ministre, Roselyne Bachelot. Comment vous avez pu obtenir que trois ministres montent sur scène pour dire les monologues du vagin ?
Parfois, vous avez des idées qui vous dépassent. J'ai un festival dont je vous ai parlé qui s'appelle Parole citoyenne. C'était la première édition avec des grands spectacles. On a parlé de chatouille un tout petit peu, donc sur les violences sexuelles commises sur les enfants. Il y avait un spectacle sur les migrants, il y avait un spectacle sur l'antisémitisme. Et je voulais absolument faire effectivement les monologues du vagin. Et j'en ai un peu assez que les politiques s'emparent de la journée de la femme, donc de la cause des femmes, le 8 mars. Pour moi, ça doit être permanent. Et j'avais demandé donc à Marlène Schiappa, parce que comme dans une autre vie ou dans une même vie, j'ai eu la chance de vivre cette épopée incroyable qui était la campagne de Macron. J'avais demandé à Marlène de venir jouer le 7 mars les monologues, et le 8 mars je le faisais avec Muriel Robin, les monologues à Bobino. Et Marlène tout de suite a dit oui, mais je voudrais le faire comme ça soit incontestable idéologiquement et politiquement. Je veux le faire avec une personnalité de droite et puis une personnalité de gauche. Donc elle a sollicité Myriam Combry, elle a sollicité Roselyne Bachelot, et elles ont fait ce trio. Ça s'est décidé en un rien de temps, et ça a été un tsunami médiatique. C'est-à-dire que mon festival qui s'appelait Parole citoyenne, personne n'en parlait, tout le monde parlait de cette soirée. Et c'était assez incroyable parce que vous connaissez cette pièce, le propos est assez cru, et porté par des politiques, ça avait une dimension incroyable. Et ce soir-là, Myriam El-Khomri avait fait venir des dames de trappe qui n'avaient jamais assisté à un spectacle. Et ça, dans notre histoire, c'était un moment très émouvant. Parce qu'on abordait de façon très crue un sujet fort avec des gens qui n'étaient pas habitués à aller au théâtre. Donc ce soir-là, ça a permis ça. Et rien que pour ça, c'était une expérience que je suis très heureux d'avoir réalisée.
Voilà, Jean-Marc Dumonté, homme de théâtre engagé.
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over. Lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn, and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness, oh, lady. Let me show you now.
Ça, c'est très estival, je trouve. Vous savez que Pascal, le philosophe, alors là, on part dans des hauteurs, disait « L'homme est un roseau pensant ». Et c'est justement le trio Roseau accompagnant le chanteur folk Ole Nyman dans « Heart and Soul ». Mes invités ce matin, Aïssa Maïga et Jean-Marc Dumonté.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Aïssa Maïga, la politique, vous êtes tombée dedans très très jeune. Je crois savoir que vous êtes née à Dakar, au Sénégal. Et votre père, Mohamed Maïga, était un célèbre journaliste malien, c'est ça ?
Absolument. Bon, ça, je m'en rendais pas vraiment compte hein, quand j'étais petite. Ce dont je m'apercevais, c'est qu'il voyageait énormément et qu'il était très absent, parce qu'il se rendait beaucoup sur le continent africain. Et c'est après son décès, lorsque j'avais 8 ans et demi, lui-même étant mort à l'âge de 33 ans, donc très jeune, que j'ai découvert d'une certaine manière qui était mon père.
Alors donc il était proche du président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui est mort également, et il se pourrait que votre père soit mort dans des circonstances troubles.
Oui, il est mort.
Il aurait été empoisonné, c'est ça ?
Voilà. Et Thomas Sankara, dont vous parlez, c'est un petit peu le Che Guevara africain.
Africain, oui.
C'est une figure qui reste, alors qu'il est décédé en 1987, qui reste une grande figure africaine qui inspire les jeunesses de différents pays sur le continent et parfois même hors du continent. C'était un humaniste, un féministe, un écologiste. C'était une personne assez flamboyante de l'étoffe des grands. Il se trouve qu'il était militaire et que mon père l'a rencontré, d'après mes sources, à la fin des années 70, alors même que Thomas Sankara revenait de sa formation militaire à Madagascar. C'était un militaire qui disait qu'un militaire sans formation politique n'était qu'un tueur en puissance. Et c'est quelqu'un qui avait à cœur de changer la donne, de changer les choses et d'améliorer aussi bien le quotidien que le destin de son pays et même au-delà des frontières du Burkina Faso, puisque c'était un panafricaniste, ce que mon père était également.
Alors vous venez en France très jeune, à l'âge de 4 ans, vous débarquez, vous faites vos études, on va passer sur les études. Ce qui est important, c'est qu'adolescente, vous allez découvrir la comédie musicale avec une prof de théâtre qui vous éveille.
Avec Daisy Fay,
voilà,
qui nous écoute peut-être.
Daisy Fay, bonjour Daisy Fay. Et là se pose un problème de casting, hein, vous le dites vous-même, vous dites « Quand j'ai mis un pied dans ce métier, la couleur de ma peau est devenue une question centrale », c'est-à-dire que si par exemple on vous propose, vous lisez un scénario dans lequel on dit « Alice est infirmière », on engagera systématiquement qu'une comédienne blanche. C'est ça l'idée ?
Alors la question de l'infirmière, ça, pour le coup, c'est pas forcément l'exemple le plus typique, parce qu'il y a, comme vous le dessinez un petit peu, des rôles qui sont un petit peu dévolus traditionnellement aux actrices et aux acteurs de couleur, aux acteurs non blancs en France. Pour les femmes noires, souvent, bah, c'est la pute.
Ah oui.
Voilà. L'infirmière.
Ah bon.
La sans-papier.
Oui.
Mariée de force, excisée, battue, maltraitée par les siens et souvent sauvée par des gentils blancs. Bon, ça, c'est, je peux vous le dire d'autant plus facilement que là, je suis en plein déménagement. Où est le rapport ? C'est que je suis retombée sur un texte que j'ai écrit lorsque j'avais 24 ans, donc c'était il y a quand même un petit moment. Et dans ce texte, je raconte mes déboires, je raconte la façon dont je commence à être déjà fatiguée par la récurrence de ces rôles-là et la façon, et je raconte également cette chose qui pour moi est incompréhensible alors, qui est que je sors du lycée. J'ai fait un tout petit tour à la fac, mais en gros, j'ai reçu une éducation scolaire française.
Traditionnelle.
Traditionnelle, normale, tout ce qu'il y a de plus basique dans l'école publique. Et dans cette école-là, on m'expliquait les valeurs humanistes des Lumières, notamment. On me disait, comme tout le monde, que je devais apprendre les textes, notamment classiques, par cœur. Et puis, arrivé dans le monde du travail, dans le monde du théâtre et du cinéma, de la télévision en France, je me suis aperçue que j'étais devenue l'étrangère, que subitement, toutes ces choses que je pouvais maîtriser, qui étaient de l'ordre de la chose commune, de la culture commune, m'étaient refusées. Et j'étais reléguée dans un espace qui me semblait être assez insultant, puisqu'il il était fait, pour le coup, de clichés et de clichés racistes.
Jean-Marc Dumonté, ce matin, on balait les clichés. Comment faire ? Vous êtes sensible au combat d'Aïssa Maïga quand elle fait la remarque que pour une femme noire, c'est beaucoup plus difficile de faire carrière que pour un Français, guillemets, de souche ?
Je suis sensible et je suis éreinté pour elle de ce combat. Je suis éreinté pour elle parce que c'est une question qui est sempiternelle, il me semble. Et lors de la dernière cérémonie des Molières, Farid, que j'ai la chance de produire, a dit « bonjour les Blancs », parce que dans la salle, il n'y avait que des Blancs. Et quand on a fait la réception au ministère de la Culture, et le ministre de la Culture n'y est pour rien, en l'occurrence, mais tous les nommés aux Molières, c'était que des Blancs. Il n'y avait pas un Noir, il n'y avait pas quelqu'un de la diversité, on va dire.
Alors ça a été
et c'était, oui. Et c'était assez incroyable pour moi, parce que on a pris la parole avec le ministre, juste pour recevoir ceux qui étaient nommés aux Molières, hein, c'est pas la cérémonie. Et j'étais sur une petite estrade avec lui, et donc il y avait que des Blancs. Et incontestablement, on est entre nous. Et le problème, c'est que le théâtre, on est trop entre nous. Et il y a très peu de comédiens d'origine de la diversité, sauf dans les stand-upers. Enfin, tous les gens que je produis beaucoup
dans les stand-upers.
Là, dans l'humour.
C'est ce que dit Aïssa.
C'est une façon d'arriver seul, parce qu'au fond, ils arrivent seuls. Ils font qu'avec leur courage, avec leur talent, avec leur détermination. Et ils n'ont pas besoin du regard des autres. Enfin, ils ont besoin du regard du public, évidemment. Mais ils n'ont pas besoin d'être castés, ils n'ont pas besoin de... Ils arrivent seuls, ils font des scènes, ils sont repérés comme ça. Mais autrement, le parcours du combattant d'un jeune comédien, il est beaucoup plus compliqué. Et moi, je le vois dans nos distributions de pièces. Et là, on est en cause, parce qu'à chacun de balayer devant sa porte. Dans nos distributions, incontestablement, c'est très très rare qu'on auditionne simplement. Des gens qui ont des parcours un petit peu différents.
Il y a une sorte de racisme implicite.
Ce qui est extraordinaire,
sorte, hein.
C'est que, comme dit Aïssa, l'école fait son métier. L'école fait son job. C'est la société qui est en retard. Parce que l'école, effectivement, distribue une éducation qui est commune pour tout le monde, quelles que soient les origines. Et on est tous des citoyens français. Et puis, il y en a ensuite que la société oublie un petit peu. Et nous, dans le théâtre, c'est le cas. Et dans le palmarès qu'il y a eu cette année sur les Molières, évidemment, c'est que des Blancs. Et donc moi, je dis évidemment, c'est pas normal, hein, mais c'est un constat. Et dans les remettants, c'est pour ça que j'avais demandé notamment à Farid, on a introduit de la diversité qu'on n'avait pas sur les nommés.
Mais il y a des réflexes. Alors moi, encore une fois, je peux parler de mon parcours. Je m'aperçois, en me retournant un petit peu, concernant les rôles qui m'ont été offerts au théâtre, qu'ils sont quasiment exclusivement des rôles qui sont dans des pièces américaines traduites en français, dans lesquelles il y a le rôle d'une femme
Black
noire
woman,
américaine.
Comme Brooklyn Boy, dans lequel vous
Exactement.
Avez joué il y a quelques
Alors, ce
années.
Sont des rôles magnifiques, hein. Attention, parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de jouer que des rôles de blanches, hein. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai envie de pouvoir interpréter, comme toutes les actrices, j'ai beaucoup de rêves, et là, je sens qu'il faut que je m'arrête de parler.
C'est ça. Oh, bah, écoutez, c'est-à-dire que Juliette Médevielle aimerait tellement qu'on envoie un disque, je pense qu'on peut lui faire plaisir.
Je
voulais juste préciser une chose, c'est que vous avez quand même publié en 2018 un recueil de témoignages importants. Oui. Noir n'est pas mon métier, aux éditions du Seuil. Parmi les femmes qui témoignaient, il y avait Sonia Roland, Firmin Richard, entre autres. Et beaucoup d'autres. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'on a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps. Et donc, je vous propose qu'on écoute maintenant l'immortel Patti Smith dans Gloria, un titre de 1975, et ça ne vieillit pas.
« Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Smith sur France Inter, c'était Gloria.
Vous avez dit.
Ah non, vous l'avez dit.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt?
Si j'avais pu être dans une exigence totale, il y a des films que peut-être je n'aurais pas fait. Si vraiment j'avais été dans une intégrité à 2000% par rapport à des choix esthétiques, politiques, etc.
Ah bon? Il y a des films que vous n'auriez pas fait, Aïssa Maïga?
Oui, en fait, si j'avais dû être complètement en accord avec moi à 2000%, comme je dis dans l'extrait, là, je pense qu'il y a... J'aurais fait un quart des films que j'aurais fait en 20 ans.
Ah oui?
Ouais.
Et pourquoi donc?
Parce qu'en tant que femme, noire,
oui.
C'est très difficile d'avoir accès à des rôles qui ne soient pas des rôles qui dépendent du regard d'un homme. Qui ne soient pas des rôles qui nous relèguent d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment un parcours du combattant. Quand Jean-Marc Dumontet employait le mot éreintant, il y a quelque chose de l'ordre de la fatigue. Parce qu'il faut résister. Il faut continuer pour autant à exister sans se perdre totalement. Il y a beaucoup de rôles que j'ai refusés tout net également. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est teinté de cette chose-là, qui est une forme de super-vigilance qu'on est obligé d'avoir pour ne pas tomber dans des pièges.
Pour ne pas être renvoyé au cliché en permanence et se retrouver toujours à faire les mêmes rôles.
Voilà. C'est alors, ça. Ce qui donne de l'espoir, c'est qu'il y a au milieu de tout ça des gens qui créent des rôles magnifiques, des réalisateurs, des réalisatrices qui s'affranchissent de tout ça. Quand vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Dumontet, que la France est un pays qui a merveilleusement bougé sur des tas de questions, c'est vrai. Et notre responsabilité aujourd'hui, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Est-ce qu'on peut se reposer sur nos lauriers et nous dire, oh, c'est vrai qu'en termes de droits des femmes, voilà, les femmes ont le droit d'avorter, etc. C'est vrai ! Et pour autant, quand on voit le renouveau des combats féministes aujourd'hui, dont s'emparent aussi des très jeunes femmes, on se rend bien compte que, voilà, on nous a tendu un bâton et il faut continuer le combat. Et, enfin,
la révolution
le bâton,
est en marche.
Quand je parle de bâton, c'est de relais. Hein. On est bien d'accord. Hein.
Bien sûr, on a bien compris.
J'ai été bien comprise.
Absolument. Alors, Jean-Marc Dumonté, j'ai reçu il y a quelques jours dans Estivalitude Françoise Nyssen, qui semblait considérer qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle disait, hein, en politique pour les acteurs de la société civile. Alors, il y a eu le départ de Nicolas Hulot, de Françoise Nyssen, donc il y a eu l'éviction aussi de Cédric Villani. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète ou qui vous préoccupe ?
Non, la politique, c'est un métier avec des codes, et c'est compliqué. Et je pense que Françoise Nyssen, qui vient d'écrire un ouvrage avec, je pense, une grande honnêteté intellectuelle sur son parcours.
C'est pour ça qu'on l'a reçu, d'ailleurs.
Je n'en doute pas. Pointe du doigt que son impréparation, parce qu'elle a été appelée comme ça en dernière minute, elle n'était pas proche du président, et c'était la volonté du président, qui est la moitié du gouvernement constitué de personnes de la société civile, ben c'est des greffes qui sont pas simples. Il faut trouver les codes. Et vous avez vu aujourd'hui, on le voit avec l'affaire Rugy, à quel point on est sous le feu des projecteurs et de façon extrêmement violente. Faut s'y préparer. Voilà. Et il y a des codes. Il y a ensuite, techniquement, faut savoir ce que c'est qu'une navette à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a plein de choses à connaître. Et il y a des administrations qui sont puissantes.
Il faut pas commander de homards.
Il faut pas commander de homards. Mais ça, c'est de la décence. C'est de la décence absolue. On est là pour servir. On peut pas se servir. Aujourd'hui, les Français ne le comprennent pas. C'était des mauvais réflexes d'époque antérieure. Mais c'est vrai que la grève de la société civile, et c'est pas vrai que sous ce gouvernement-là, ça a été le cas précédemment, mais là, il y avait une volonté et nécessaire. Et moi, je pense qu'il faut la maintenir.
Cette grève prend difficilement.
Non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un comme Blanquer qui réussit très très bien. Il y a Buzyn qui réussit très bien. Il y a Marlène Schiappa qui n'était pas une politique qui réussit très bien. Donc, il faut pas être un politicien chevronné pour réussir. Mais en revanche, croire que votre seul label société civile suffit. Non.
Et vous, Jean-Marc, vous aimeriez entrer en politique, parce que il y a plein d'articles, on le dit depuis pas mal de temps. Hein. On a parlé de vous pour le ministère de la Culture, après on a parlé de vous pour la mairie de Bordeaux. Est-ce que vous avez l'envie d'un engagement ou
alors,
pas ?
Vous avez vu que plus on parle de vous, moins ouais. ça se passe. Donc oui, comme on a beaucoup oui, parlé vrai. De moi, ça s'est pas passé.
Ah bon.
J'ai accompagné très 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 modestement cette épopée extraordinaire. Je pense qu'on a une grande chance d'avoir ce président. Quand vous voyez Boris Johnson, quand vous voyez Poutine, quand vous voyez Trump, quand vous voyez Bolsonaro,
c'est sûr, oui.
On a une immense chance d'avoir ce président qui évidemment a des défauts, mais qui a surtout des grandes qualités et qui peut être un leader du monde libre et qui s'installe comme un des leaders du monde libre. Moi j'ai pas d'ambition. Ma seule ambition, c'était d'essayer de servir et d'apporter une toute petite pierre à l'édifice.
Alors Jean-Marc Dumonté, je crois que vous avez une question à poser à Aïssa Maïga, mais vous ne m'avez pas dit laquelle c'était.
Non, parce que je voulais la rencontrer et la rencontre s'est opérée. Et moi, ce qui me marque, et ça se voit pas, c'est à quel point elle est radieuse, à quel point elle irradie de bonne humeur et à quel point en même temps elle mène des combats difficiles. Et moi, ma question, c'est comment vous faites pour conserver ce sourire et comment vous faites pour conserver cette énergie alors qu'incontestablement, chaque jour révèle son lot de difficultés.
Bah parce que d'abord, j'ai une vie très heureuse, une vie personnelle très très épanouie, parce que je crois en l'humain. J'ai un grand espoir de changement et je crois en ma capacité aussi de révolte. Et puis j'aime, je peux dire un truc hyper cliché, mais moi j'aime rire. Hein. Et on peut tout à fait être multiple. On peut avoir une grande combativité et puis garder un peu d'humour.
Moi j'engage Aïssa Maïga dans Phèdre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle serait formidable dans Phèdre, de Racine.
Mais vous savez,
Ariane, ma sœur,
Florian Zeller me racontait qu'il a ses pièces qui sont adaptées aux États-Unis et que c'est fréquent là-bas, et ça a été le cas pour une de ses pièces, qu'un couple de blancs distribue le rôle de leur fille ou de leur fils à un noir ou une noire sans aucune difficulté là-bas. Donc il y a des combats à mener. Vous parliez de relais tout à l'heure. Incontestablement, faut que les relais se passent. Et moi, je suis... Aïssa nous parle d'une révolte souriante, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait des révoltes, mais qu'elles soient aussi souriantes qu'on accompagne
dans
bien
les choses.
Dans le
cinéma américain, il y a même des noirs extraterrestres. Si vous regardez Star Trek ou Star Wars, il y a quand même une avancée très forte.
Mais c'est vrai que les films, les films et les séries de science-fiction, là, pour le coup, offrent des rôles complètement... Les distributions sont hyper libres. Et je pense que les directeurs de casting, qui ont un vrai rôle à jouer, s'éclatent quand on leur en offre.
Et que la société américaine est sans doute un peu plus en avance que la nôtre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas beaucoup de défauts, mais elle est un peu plus en avance sur ça.
Alors... Mais disons qu'on parle de ces choses-là avec beaucoup moins de tabous. Oui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le mot race. Quand on leur dit que le mot race a été effacé de la Constitution en France, ils nous disent, mais on sait bien que d'un point de vue biologique, les races n'existent pas, mais d'un point de vue des dynamiques sociales, elles existent toujours. Donc pourquoi effacer ce mot? Pourquoi refuser d'en parler de façon très claire, frontale, et voire peut-être déculpabiliser?
Aïssa Maïga, alors Jean-Marc, je vous demanderai de répondre relativement brièvement. Vous avez une question à poser à Jean-Pierre Dumonté.
Jean-Marc.
Pourquoi je vous appelle Jean-Pierre? Qu'est-ce que je craque là?
Pourquoi pas? Parce qu'il prépare l'émission d'après.
Je vais poser une question à Jean-Pierre Dumonté, allez-y.
Donc Jean-Marc.
Oui, Françoise Nyssen.
Alors, une question très basique. Mais alors, parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens qui voulaient devenir acteurs, chanteurs, etc. Comment, à quel moment on pense à devenir producteur de théâtre?
On ne vient pas. J'ai rencontré un magnifique spectacle il y a 25 ans qui s'appelait La Java des Mémoires, en Lot-et-Garonne, la compagnie Roger Louret. Et je me suis dit, je vais les aider. Et c'était pas mon métier. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un en 98 qui s'appelait Nicolas Canteloup. Et on s'est dit, tiens, on va travailler ensemble parce qu'on pensait qu'avec beaucoup de travail, on arriverait peut-être à faire quelque chose. Donc ça s'est produit comme ça et très, très naturellement. Et puis moi, j'avais d'autres métiers que j'ai abandonnés il y a une petite dizaine d'années pour me concentrer sur un métier qui me passionne et qui est grisant.
Vous faisiez quoi?
Moi, j'avais des agences de communication, j'avais un journal économique à Bordeaux. Enfin,
vous avez été un industriel du PINS?
Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent.
Vous avez fait fortune dans le PINS.
C'est comme ça que j'ai produit la première pièce qui s'appelait La Java des Mémoires. Exactement.
Alors, très rapidement, Aïssa Maïga, je vous ai demandé le son qui vous résumait. Alors, merci pour ce son. On l'écoute. On pourrait même l'écouter des heures. Ça, c'est France Inter deviendrait la radio zen qui passerait sans fin le bruit des vagues sur les rochers, puisque tel est ce son magnifique, oui. Qui n'a rien à voir, Aïssa, avec le son de Jean-Marc Dumonté, parce que vous, c'est un son très différent. Écoutons-le.
And so, my fellow Americans,
ainsi, mes concitoyens américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble, nous pouvons faire pour la liberté de l'homme.
Alors c'est qui Jean-Marc Dumonté?
C'est l'investiture de Kennedy, c'est il y a 58 ans.
20 janvier 1961.
Ouais, c'est il y a très longtemps. Et ben voilà, je crois que ça résume un peu ce que je crois, c'est qu'on est tous porteurs du mieux vivre ensemble, et donc on doit tous contribuer à porter sa pierre à l'édifice. Voilà, et on doit cesser de tout attendre d'en haut, mais on doit chacun essayer de porter un monde un peu meilleur et bienveillant. Voilà.
Jolie conclusion, hein. Merci beaucoup. Alors merci Aïssa Maïga, merci Jean-Marc Dumonté. Vous avez tous deux fait preuve ce matin d'une remarquable et un peu tempétueuse estivalitude. Aïssa Maïga, le film Mon frère de Julien Abraham sort donc le 31 juillet sur tous les écrans. Et Jean-Marc Dumonté, vous reprenez à la rentrée deux spectacles parisiens dans vos théâtres. Plaidoirie avec Richard Berry, mise en scène par Éric Théobald, donc au Théâtre Antoine. Et Art de Yasmina Reza, mise en scène par Patrice Kerbrat, avec Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin, toujours au Théâtre Antoine. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter, bien sûr. La réalisation d'Estivalitude est assurée de main de maîtresse par Juliette Medevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon, avec à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain dès 9h sur France Inter.